Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronicle. Trois épisodes en l'espace de même pas deux mois, extraordinaire. C'est presque un miracle et pourtant, on est là, comme on avait dit, on revient, on est dans les temps et on va donc s'enregistrer un petit épisode un peu plus habituel, on va dire, avec trois titres, un titre VF, un petit manga et un titre VO au programme du DC et du Marvel. Et un manga, un petit shonen, comme diraient les jeunes, des familles. Avec moi pour parler de ces trois titres, Cyril. Salut Cyril, comment tu vas ?
Salut, bonjour à tous.
Du coup, comme je le disais, on va parler de trois titres. Trois titres que je n'ai pas encore énoncés parce que j'ai fait mon intro à l'arrache, comme d'habitude. Au programme donc, le premier titre, ça sera The Plot Hole, le tout dernier titre sorti chez Urban Comics de Sean Murphy, qui est au dessin et au scénario. Le shonen Tokyo Aliens qui sort aujourd'hui même chez Kana, jour de l'enregistrement, donc le 9 novembre il sort, autant pour moi. Et la dernière série qui est actuellement en cours de parution aux US, la série She-Hulk.
Je précise, et qui est paru en français.
Et qui est paru aussi en français, voilà. En VO, il y a 6 ou 7 issues qui sont disponibles, je crois. Et en français, le premier TP, si je ne dis pas de bêtises.
C'est tout à fait ça. Le tome 1 est paru en français de la série She-Hulk.
Donc, je te propose, sans tergiverser, d'attaquer par The Plot Hole. Titre dans la gamme Urban Indies, avec un auteur connu surtout récemment, enfin, qui avait fait grand bruit avec sa série White Knight, et puis ses multiples dérivés, le Harley Quinn, le Curse of White Knight, et actuellement en VO le Batman Beyond, qui ne tardera pas à arriver, je pense aussi. Urban nous propose son titre The Plot Hole, qui à la base est un financement participatif qu'il avait proposé sur les plateformes américaines dont j'ai oublié le nom. Mais c'est pas très important aujourd'hui, étant donné que nous, on nous le propose au format relié, en one shot en fait, dans la gamme Urban Indies. Au programme de ce titre, le plot, j'ai envie de te dire. C'est une bande de bras cassés qui a décidé de lutter contre les éditeurs. Enfin, pas contre les éditeurs, mais on va dire que c'est plusieurs héros de plusieurs histoires et plusieurs timelines différentes qui forment une équipe de choc pour aller corriger et éditer les livres, les histoires des livres, afin qu'ils puissent être publiés. Tout ça sous couvert de références à la pop culture, à la littérature, un peu de fanservice à droite à gauche, quelques caricatures de personnages aussi, un peu fait au chausse-pied, et en avant. Je pense qu'on n'est pas loin du pitch général du livre, à moins que tu aies quelque chose à rajouter.
Ouais, non, je t'ai laissé ramer tout seul, en fait, pour essayer d'expliquer le pitch du bouquin. Ouais, c'est ce que tu disais, en fait, c'est... C'est le livre dans le livre dans le livre, ce plot hole, où ce groupe de personnages issus de plein de bouquins différents, il y en a un qui est issu d'un manga, l'autre qui est issu d'un strip, il y a des bouquins de... Il y en a qui sont... Il y a une vampire, il me semble, enfin voilà. Se retrouve sous la tutelle d'une éditrice, mais éditrice de livres, sous le nom des Incohérents, c'est pas mal, en deux mots, de façon à corriger les mauvais bouquins, de façon à ce que le scénario tienne la route et qu'il puisse être édité. Voilà, en soi, c'est fallait y penser, mais pourquoi pas.
Ouais, c'est un peu le Inception de la BD, quoi, dans les grandes lignes.
C'est ça, en fait, tu te dis, Sean Murphy s'est fait plaisir, il a pris toutes les idées qu'il avait, tous les styles avec lesquels il avait envie de travailler, il a tout mis dans le même chapeau, il a bien secoué et il nous a sorti The Plot Holes.
Bon, on va pas partir dans 10 000 sens. Je te propose graphiquement déjà. Alors, clairement, moi, c'est plutôt ma cam. J'aime déjà ce qu'il fait sur White Knight. On retrouve complètement sa patte. On l'avait vu aussi sur du American Vampire. Toujours c'est très très anguleux, très dynamique. La colo de Matt Hollingworth aide grandement à son rendu, même si son crayon en noir et blanc est assez fou. Le design de ces personnages est recherché, mais il est à la fois assez classique, j'ai trouvé moi. J'aime beaucoup, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans tous ces autres titres, que ce soit Tokyo Ghost, même dans les titres de Batman, quoi. Ces persos se ressemblent un peu tous, je trouve.
On en arrive à la même conclusion, je suis content que tu dises ça. Alors moi, c'est toujours très beau ce que fait Sean Murphy, hein. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Néanmoins, c'est vrai que d'un comic sur l'autre, tous ces persos se ressemblent, tous ces mecs avec le nez pointu, enfin, on dirait des Cyrano, tous un petit peu, sauf que c'est vraiment en pointe. Voilà, il a quand même réussi, je dirais, le petit tour de force dans cette série. C'est qu'il a réussi à intégrer à la fois un côté strip, un côté manga, un côté BD européenne, de la fantasy. Enfin, il a réussi à mélanger tout ça, mais de façon assez harmonieuse. Il y a quand même quelques petits trucs qui tranchent, mais dans l'ensemble, ça reste harmonieux. Par contre, ouais, comme tu dis, au niveau du design, mais comme au niveau de la caractérisation de ces personnages, de toute façon, ça c'est l'autre partie, c'est partie scénario, il est resté sur du cliché. En fait, chaque personnage est immédiatement reconnaissable.
C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, cette histoire, c'est une succession de clichés, j'ai trouvé. J'ai vraiment pas pris. Enfin, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai pas pris plaisir à lire ça. Graphiquement, oui. Par contre, le scénario. Alors, déjà, c'est pas ouf. Et ensuite, c'est cliché sur cliché. Moi, ça m'a un peu agacé de me dire, tiens, ah ben, il va se passer ça parce que la suite logique d'une histoire comme ça, avec ces personnages, ça va être ça. En fait, pas de surprise, c'est exactement ce qui se passe. Et ok, il se fait plaisir, il met les références à plein, plein de monuments de pop culture, à plein de choses qu'il aime et qu'on aime tous, parce qu'on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de voir un petit clin d'œil à Star Trek, un petit clin d'œil à Star Wars, un petit clin d'œil au perso, très clairement de DC, de Marvel, voilà, ça c'est cool. Mais c'est cliché, et du coup, purée, mais j'ai trouvé ça dommage, quoi, parce que il y avait matière à faire, mais ça manque du truc qui fait que, ouais, c'est original.
Ouais, bah c'est un peu mon ressenti aussi. Moi, j'hésitais entre l'idée de génie et l'envie d'un geek, hein, de pouvoir rassembler un peu tous les gens dans la même histoire, tous les personnages. C'est un peu ce qu'avait fait Spielberg dans Ready Player One, où il avait mélangé, enfin voilà, dans la bataille finale de Ready Player One, je ne sais pas si tu te souviens, on voit plein de persos, on voit même Spawn, on voit, enfin voilà, ça part dans tous les sens, mais ça reste du cohérent. Là, allez, on va défendre Sean Murphy en disant que c'est cliché, ces persos sont clichés, parce que c'est des persos qui sont tirés de mauvaises histoires.
Oui.
Donc c'est des histoires qu'il n'a pas pu sauver. Donc il a utilisé les personnages de ces mauvaises histoires pour en faire ses héros. Mais en voulant en faire des anti-héros, il est quand même resté dans le cliché. C'est assez compliqué. Enfin, je comprends la démarche, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour que ça la mayonnaise prenne.
Suis assez d'accord, tu vois, mais sur le principe, tu prends des personnages qui sont, entre guillemets, tirés de mauvais livres qui sont pas parus en fait au final, ça donne du caractère en disant ben, c'est ces persos en fait qui connaissent le mieux l'échec de la parution et qui du coup pardon vont pouvoir œuvrer de la meilleure des manières possibles pour justement corriger ces petites incohérences dans les récits afin de publier le truc. Le problème, c'est que c'est pas du tout exploité. Et du coup, c'est toi qui te le. Comment on appelle? C'est toi qui arrives à en déduire ça et à leur donner un petit peu ce côté sauveur de meubles, alors que c'est clairement pas indiqué, quoi. Il n'y a rien qui te donne ça. En plus.
Bah, c'est surtout que s'ils marchent pas entre eux, les personnages,
Oui,
quoi.
c'est ça, voilà. Y a pas de. En fait, il n'y a aucun lien qui fait que. Deux persos vont faire un super team-up ou quoi. C'est toujours des discussions forcées et bateaux. Ça a pas de sens. Tu les fais ne pas se parler, juste interagir dans chaque histoire. Pour moi, c'est la même chose. Et d'autant plus, je reviens à ça parce que j'ai oublié de le dire au tout début, mais le premier chapitre, je me demandais ce que je lisais. C'était pas du
Ouais,
tout
c'est ça,
clair,
c'est
en
un peu
fait.
ça.
Ce qu'il veut te proposer, il faut attendre le début du second chapitre pour comprendre que l'histoire va se dérouler et va tendre vers cet univers-là. Alors le premier chapitre, mais moi je ne savais pas ce que je lisais, ni même à quoi ça servait. Vraiment, hein, ça m'a. Je me suis demandé, mais qu'est-ce où on va en fait? Vraiment.
En fait, le plus intéressant dans ce one shot, c'est la fin. Où l'équipe semble enfin s'être formée. T'as l'impression que toute l'histoire n'est que le prologue à ces 5 dernières pages, où là, il y a un semblant de travail d'équipe, il y a un semblant d'osmose entre eux, où c'est un peu plus, il y a un peu plus de lien entre les persos et une cohérence dans ce qu'ils vont faire. Moi, typiquement, tout le long du bouquin, là, les deux persos principaux, qui sont l'éditrice et puis l'auteur de bande dessinée, là, de comics,
Oui,
enfin je ne me rappelle plus de son nom même d'ailleurs.
Ed, c'est l'éditrice.
Ed, c'est ça, ouais.
Et le
Ed, l'éditrice, ouais.
prénom eh bien, du héros principal, c'est pas Cliff.
Peut-être, écoute, m'en souviens
Si,
plus, ça m'a pas
si
marqué.
c'est, en fait, c'est Cliff, mais il a le surnom de Inkslayer au début.
Ouais, c'est ça, Inkslayer. Mais déjà, enfin bon. Tu m'étonnes que ce soit un perso loupé. Non, moi, Non, mais c'est vrai. Ce qui m'a un peu plus gêné, c'est que justement, dans cette relation entre Ed et Inkslayer, justement, notamment à un moment où elle lui passe une épée, l'éditrice, enfin, l'éditrice, elle est inspirée de la grand-mère de Sean Murphy, du vrai personnage de la grand-mère de Sean Murphy. Là-dessus, bon, très bien, il rend hommage à sa mémé. Sauf que Mémé, on l'a déjà vu dans sa série précédente, là, inspirée des légendes arthuriennes.
Ah non, c'était pas lui,
Et
c'était pas lui.
c'est
C'est
pas
Dan
lui?
Mora qui est sur.
Ah ben c'est Dan Mora. Eh ben, de toute façon, c'est la même histoire. Et j'ai tellement vu, mais des reprises de séquences entières de ce titre sur The Plot Holes, que ça m'a un peu dérangé,
Ah
quoi.
mais
La mémé
clairement,
qui
hein.
donne l'épée, le truc. Enfin, il y a une espèce de passage de relais qui lui a sûrement fait très plaisir à Sean Murphy, hein. Mais qui apporte rien, en fait.
Non, non, mais on est d'accord. En plus, le côté grand-mère qui est. Enfin, Ed, là, elle c'est censée être une femme âgée. Et en fait, au final, elle est comme la grand-mère que tu parles de Once and Future, qui est censée être âgée,
Ouais, mais c'est ça.
mais c'est la mamie qui va te faire des saltos arrière, qui va sortir des guns de l'espace et tirer à tout va pour dézinguer des extraterrestres. Et du coup, ouais, il y a un peu la redite. Et je suis assez d'accord. Moi, j'ai vu des similitudes aussi. Ça, c'est un truc.
Ouais, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a. Au départ, je te dis, j'ai même confondu les deux séries, les deux auteurs. Parce que, mais c'est tellement similaire, il y a tellement ce truc. Enfin. Puis Ed, enfin voilà, le pourquoi du comment, comme tu dis, de l'inception, bienvenue dans la matrice, enfin, ou de moment, non, c'est pas, enfin, ça se laisse lire, c'est pas prenant, c'est sympa graphiquement, même si c'est du déjà vu, c'est pas prenant, mais voilà quoi, c'est 17 balles foutues en l'air quoi.
Ouais, clairement, les fans hardcore de Sean Murphy pour le dessin, ils trouveront leur compte, hein, parce que c'est beau. Par contre, encore une fois,
Oui, c'est sûr.
voilà, c'est. Enfin, il faut qu'ils fassent le dessin uniquement. Le scénario, il n'est pas assez solide. Encore sur Batman White Knight, il est solide, mais parce que Batman a tout un lore et un background de.
Ouais, c'est ça.
Voilà, où c'est cadré, parce que même s'il a un peu les mains libres, il peut pas non plus sortir et faire n'importe quoi avec les personnages de Batman. Donc, comme c'est cadré, voilà, ça colle et ça va bien. Moi, par contre, tu vois, sur Plot Hole, j'y ai vu un gros doigt d'honneur aux éditeurs, en vrai. Sur
Ah mais
sa
c'est
manière de
carrément
raconter,
ça quoi.
en mode, ouais, ben, les éditeurs, comme c'est toujours eux qui décident qu'est-ce qu'on publie ou quoi, si tous les livres y sortent pas, c'est à cause des éditeurs, parce que. Quand les livres y sortent, on n'a pas la version que l'auteur il a pensé ou quoi. Tu vois, j'ai vu un sens. Alors peut-être c'est moi qui me trompe complètement, mais j'ai vu un sens vraiment où Moi, je veux sortir des livres, mais quand ils sortent, c'est jamais vraiment comme je veux, parce qu'on m'empêche de les sortir, ou parce qu'il y a un éditeur qui passe derrière, un truc du genre. Et ça m'a un peu gêné, je trouve.
C'est ça. Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça a été c'est sorti en financement participatif. Je pense que c'est aussi pour ça que le héros est un auteur de comics. Enfin voilà, il fait son Stephen King, quoi. Il transpose sa propre vie et ses propres rancœurs dans ce qu'il écrit.
Ouais.
Avec moins de talent que Stephen King.
Ah ben n'est pas Stephen King qui eux, hein.
C'est clair. Non, voilà. Après, je te dis, c'est vraiment à la fin. Tu vois, par contre, sur les 5-10 dernières pages, où l'équipe est constituée, où ils vont chercher d'autres membres pour les incohérents, et où c'est Inkslayer, qui est le chef de l'équipe, là, tu te dis, ça donne un petit peu envie d'en lire plus. Tu vois, moi, je suis resté quand même sur cette fin-là, où tu te dis, ouais, là, l'équipe, elle a l'air de tenir la route. Il y a un leader qui gère les choses à sa façon. Mais tiens, pourquoi pas, j'aurais bien aimé 2, 3, et un petit arc en plus, quoi, un petit tome 2. Mais parce que avec cette nouvelle équipe constituée, quand il n'y a plus Ed, quand c'est
Oui, quand
les
c'est plus
personnages
Ed.
finalement prennent de l'ampleur.
Bah, en fait, tu vois, pour le dans l'idée, moi, ce tome, je l'ai lu comme quand je lis un Mark Millar. Il y a plein d'idées, il y a plein de bonnes choses. La mise en place est pas assez bonne pour me donner envie d'y aller. Je finis le livre, je l'ai lu, c'était cool parce que les idées étaient sympas, c'était un peu beau parce que Mark Millar s'est aussi s'entouré de très bons artistes. Mais quand j'ai fermé, je vais jamais y retourner. Et en fait, même il peut y avoir une suite. Je prends l'exemple de Chrononauts de Mark Millar. Il y a des suites, je les ai pas lues. Ça m'intéresse pas. J'ai lu le début. J'ai vu ce qu'il proposait. J'ai vu comment c'était amené. Et ben, la suite m'intéresse pas. Et là, c'est pareil. En fait, je vois les idées qu'il a eues, les bonnes, les mauvaises. Comment ça a été fait, ce qui n'a pas marché avec moi ou peut-être avec toi aussi. Voilà. Mais en fait, je m'en fous de ce qui va arriver à côté. C'est vraiment, il y a une nouvelle équipe, et ben ok, c'est parti. Ben, allez nettoyer vos livres, allez faire vos trucs. En fait, ça m'intéresse plus. Voilà. Là, j'ai perdu du temps, l'argent, parce qu'au prix de ce bouquin, voilà. Tu vois, c'est pas un truc. Voilà. Même tes fans de Sean Murphy, je te le recommande pas tant que ça. Je te dis, ben, achète un artbook plutôt, quoi.
Ouais, après, ouais, je te dis, moi, bon, j'étais un petit peu plus allé conciliant sur la fin du volume. Voilà, j'aimerais quand même voir ce que ça donne, mais avec un autre auteur.
Ouais.
Parce que l'idée de cette police qui va dans les bouquins pour arranger les défauts de conception, les défauts narratifs, enfin voilà, moi, enfin, ça me parle, ça m'intéresse, c'est ce qu'on fait là, d'ailleurs,
Oui,
hein.
tout à fait.
On est en train de parler de l'écriture de ce bouquin, de ce qui gêne de façon à ce que ça puisse être mieux, plus intéressant et publié. Bon, là, ça a été publié. Mais je pense qu'effectivement, comme tu disais, il l'a publié en financement participatif parce que les éditeurs n'ont pas voulu le prendre.
Ouais, je pense. Ouais, après, ou peut-être parce qu'il voulait avoir l'argent pour lui, tu vois. Parce que c'est aussi le système comme ça. Ceux qui publient, ça y va direct à lui, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est possible
Oui.
aussi. Enfin, après, j'en sais
Après,
rien, hein, j'ai pas.
il est quand même assez bankable. Je pense que
Oui,
ses contrats doivent quand même être assez lucratifs.
ben après, il continue son Batman, donc voilà, il continue ses trucs, il n'y a pas de.
C'est que ça marche.
Voilà, il n'y a pas trop de soucis
C'est que
là-dessus, je
DC,
pense.
il trouve son compte et lui aussi. Donc, bon.
Exactement. Du coup, voilà, ben, vous l'aurez compris, à ce titre, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. De mon côté, c'est franchement. Je vais pas être méchant et je vais pas dire perdez pas votre temps là-dessus, mais allez-y en connaissance de cause. Si vous êtes ultra fan de Sean Murphy, complétiste, ben ouais. Sinon, mettez votre argent ailleurs. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Pour moi, c'est. Ah, moi, je recommanderais de passer ce titre, clairement. De ton côté, je sais pas toi.
Ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Non, je te rejoins aussi là-dessus. Il y a mieux pour des prix équivalents, voire moins chers. Il fait que 150 pages aussi. Enfin, c'est pas un très gros bouquin.
Ça se lit très vite.
C'est ouais. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas intéressant.
Du coup, tentons notre chance avec un petit manga. Manga qui sort du coup aujourd'hui ou demain, à la date
Qui est
d'enregistrement.
sorti, non? Qui est sorti le 4 novembre, le tome 1, je crois.
Ah ben alors c'est le tome 2 qui sort.
C'est le tome 2 qui sort dans la foulée.
Voilà. Donc c'est le titre de chez Kana, Tokyo Alien, qui donc nous propose deux tomes à l'heure actuelle et qui est actuellement en cours en VO avec 5 tomes. C'est un titre qui est édité par Square Enix et le mangaka c'est Naoe. Et dans Tokyo Alien, en fait, on va suivre Akira Gunji qui va découvrir que les aliens ils habitent sur Terre, mais qu'il y a tout un système de police et de régulation mis en place pour les accueillir, autant en tant que touriste qu'en tant qu'immigré. En gros, tu prends Men in Black, tu le mets en manga, tu as l'idée du manga.
Voilà.
C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Tu remplaces les personnages par des personnages un peu plus jeunes, hein, genre en mode lycéen qui fait la police de l'espace, où il disparaît en cours et voilà. Mais
Tout le monde s'en
c'est
fout.
globalement ça.
Bah, je suis content que tu dises ça, en fait, parce que c'est exact. On n'en a pas parlé avant, et c'est exactement le ressenti que j'ai aussi. Et j'ai pas, là encore une fois, j'ai pas pu me le sortir de la tête en le lisant. Pour ma part, j'ai lu que le tome 1. Ouais, c'est Men in Black avec des lycéens, quoi. Enfin, c'est ni plus ni moins. Ça suit la structure narrative de Men in Black avec le nouveau venu qui est chapeauté par un ancien qui sait tout sur tout, qui est costaud, qui est truc. Mais finalement, tu sais très bien que comme c'est un shonen, le nouveau va être très puissant. L'élève va dépasser le maître. Enfin, bon, je peux t'écrire la fin si tu veux, quoi.
Mais en fait, c'est exactement ça. Et alors, déjà, il y a ce côté Men in Black. Moi, j'ai eu pareil. Je l'ai lu. Tout de suite, j'ai vu exactement les mêmes similitudes. En plus, quand ils arrivent au QG, alors je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou quoi, mais les personnages, purée, mais c'est cliché. Et vraiment la même chose avec le perso qui fait les petits gadgets, fusils, pistolets,
Ah, ça
montres.
doit être dans le tome 2
D'accord.
alors, je
Mais
pense.
globalement, tu arrives au QG quand il intègre le. On va. Je spoil un petit peu la fin.
Non, mais
La fin.
vas-y.
En gros, sur le tome 1, en fait, il y a la rencontre donc de ce lycéen Akira qui va du coup rencontrer l'agent de la police. Donc j'ai oublié le nom, évidemment.
Bah, forcément, sinon c'est pas amusant.
C'est ah j'ai oublié. Sho, voilà, il s'appelle Sho. Du coup, Akira rencontre Sho sur un concours de circonstances un petit peu pendant que Sho est en mission pour une extraterrestre qui est censée avoir quitté la Terre. Il va se rendre compte ben, voilà, que les aliens existent et tout. Dans le tome 1, c'est un peu la mise en place de l'univers, des personnages, le fait que Akira découvre tout ça. Et dans le tome 2, sans aller trop loin, en gros, Akira va se voir proposer de rejoindre l'organisation sous couvert que peut-être il a un lien avec Sho et avec l'organisation. Ça va entraîner la première aventure en binôme des deux personnages. Et donc on a droit à une visite du QG, une rencontre des personnages du QG un peu extravagants, avec les trucs classiques quoi, de l'inventeur, tu vois, le chef, le mec un peu foufou, mais qui est protecteur. Voilà. Donc, comme tu dis, clairement, tu as le Men in Black en tête, et en fait, tu ne vois que ce cheminement. Et moi, ça
Non,
m'a
mais c'est
gêné,
clair.
vraiment.
Mais c'est ça, enfin, tu sais, c'est Men in Black. Alors, en plus, enfin, par rapport à Men in Black, il y a quand même des petites modifications. C'est-à-dire que dès le départ, tu comprends que Akira, peut-être, aurait des liens extraterrestres parce qu'il arrive à rentrer dans la rame de métro qui est réservée aux extraterrestres. Enfin, voilà, tu sens qu'il y a un petit truc. Dans le tome 1, c'est pareil. Là, ils lui font faire une épreuve pour accéder au rang de pupille ou du moins stagiaire dans la police de l'espace, sous la houlette de son senpai Sho. Et je sais pas, il développe des espèces de pouvoirs. On croirait peut-être un petit peu plus dans Dragon Ball que dans Men in Black, du coup. Et enfin voilà, C'est pas transcendant, quoi.
Ouais, ben en fait,
C'est pareil.
on est sur un shonen classique avec. Alors, manque de chance pour ce titre, c'est le cheminement du shonen est classique, donc ça, ben, c'est le but du
Oui.
shonen. De toute façon, peu importe celui que tu prends, le cheminement reste le même. Par contre,
Bon, bah, de toute façon, c'est un peu comme ça dans tous les types de mangas, quoi. Ça, du shonen, du shoujo, ce que tu
mais
veux.
voilà,
On reste dans la même
la
optique.
seule chose, c'est que là, le titre, il a pour lui le fait que il est très proche ben, d'un blockbuster qui était planétaire et qui a marché et qui est connu et reconnu. Du coup, c'est très difficile d'arriver à proposer un univers innovant et différent de ce qui a été fait sur un film qui a marché. Enfin, je pense qu'il est mondialement connu et dans tous les pays, quoi, Men in Black. Du coup, le lien se fait au. Enfin, tu vois, t'as même pas besoin de réfléchir à où t'as vu ça. Moi, je l'ai lu. Dans ma tête, c'est direct Men in Black. J'ai pas cherché, tu vois, c'est venu tout seul. Et je pense qu'il y a ça aussi. Alors après, est-ce qu'il va réussir à s'en détacher et que du coup, ça va partir vers autre chose? À voir. C'est possible aussi que, tu vois, le départ. J'ai déjà lu des mangas où on te pose un pitch de départ avec la présentation de l'univers, des personnages et tout. Et ensuite, un événement arrive et fait que tu changes complètement d'orientation et l'histoire prend une autre dimension. Là, pour le moment, sur les deux premiers tomes, ça n'a pas marché chez moi. C'est vraiment, tu vois, le cliché du shonen dans l'univers Men in Black. Donc, c'est pas
Ouais, c'est tout
mauvais,
à fait ça.
mais un peu trop classique du fait qu'il y ait cette aura de Men in Black autour.
Ouais, mais même si ils ont essayé de se détacher de Men in Black là dans la caractérisation et puis la représentation graphique là du grand méchant, celui qui a tué le père d'Akira, l'extraterrestre Akugin ou Akugin, enfin voilà, Akugin, je pense que c'est, qui ressemble à un gros loup énorme. Mais pareil, la figure du gros loup énorme qui tue tout le monde, on l'a déjà vu dans d'autres mangas. Enfin, c'est un démon classique japonais. Après, voilà, ils ont peut-être quand même réussi à mixer un petit peu. On n'a peut-être pas la culture nécessaire, je dirais, en folklore japonais pour voir tous les petits aspects, les petits détails qui nous dépassent peut-être un peu.
Mais tu vois, dans
Voilà.
l'esprit un petit
Enfin,
peu extraterrestre, folklore japonais, etc., il y a Dan Dadan qui arrive prochainement en France et qui est déjà dispo au Japon depuis, je pense, 6 mois, un truc comme ça. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai quelques bases, enfin, quelques bases, c'est vite dit, tu vois, j'ai le folklore japonais de par mes lectures, de par les animes que je regarde, les livres que j'ai lus, ça, y a un minimum, tu vois, de lien, c'est un bien grand mot. Mais
Oui.
Dan Dan Dadan, c'est assez explicite et naturellement bien expliqué pour que tu te poses jamais la question de j'ai un manque de connaissances ou pas. En fait, là déjà, je trouve que si tu manques de connaissances, c'est que le truc, il manque un petit quelque chose. Et
Après, c'est peut-être fait aussi à la base pour le marché japonais, l'exportation. À l'étranger. Quoique maintenant, les Japonais doivent quand même y réfléchir parce que je crois que la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde,
oui, un truc du genre, ouais.
juste après le Japon. Juste après le Japon. Donc je pense qu'on a un marché qu'ils ne doivent pas négliger. Et à mon avis, quand ils créent une série, ok, à la base, c'est pour les Japonais, hein, comme nous quand on fait un comics franco-belge. C'est avec nos codes culturels. Mais néanmoins, je pense que ça doit, quand même, l'internationalisation des mangas est une réalité. Et qu'ils essaient quand même de rester. Alors peut-être après, ils essaieraient de se rendre convenu de façon à ce que ça puisse être compréhensible par tout le
Mais
monde. J'en sais rien en
c'est
fait.
ce que j'allais dire aussi, parce que du fait que ce soit Square Enix qui le publie, Square Enix c'est un truc international. On sait, ils publient les Dragon Quest, ils publient énormément de choses à l'international, notamment. Ben,
C'est surtout un éditeur de jeux vidéo à la base de Square
oui,
Enix.
mais toute leur partie publication, ils ont un œil sur l'international, clairement. Donc.
Oui,
Il y a peut-être
c'est sûr.
aussi, comme tu dis, ce côté un peu universel et un peu soft, entre guillemets, tu vois, au niveau référence, etc., pour pouvoir toucher un maximum de marché. Bon, voilà. Je vais pas partir là-dedans parce que ben, moi, je n'y connais rien. Hein. C'est pas moi qui fais les études de marché. Mais il y a aussi peut-être
On pourrait.
ce prisme-là quant à la création d'un titre là. Après, graphiquement, c'est pas laid, c'est parfois un peu vide, mais je trouve que le design des personnages, il a quand même un petit truc. Enfin, surtout au niveau du héros, il a ce côté un peu taciturne et tout, du personnage un peu émo et tout. Moi, ça me fait rire, ce genre de perso, j'aime bien. C'est vraiment.
Ouais, bon après c'est pareil, ça reste dans le classique aussi. J'ai lu un autre manga récemment où c'était tout à fait ça, quoi. C'est le héros taciturne, tu sais, beau gosse, à qui tout réussit, que tout le monde regarde dans le lycée, un petit peu la star du lycée. Voilà, et à côté de ça, il a l'autre un peu plus petit, un peu plus perdu. Bon, c'est du shonen.
Ouais, bon, après, je t'avoue que comme je l'ai lu après The Plot Hole, j'ai passé un tout petit peu un meilleur moment dessus. Parce que,
Ouais, mais parce que c'est plus
ouais, voilà,
léger.
c'est beaucoup plus léger. Et puis, The Plot Hole m'avait quand même assez mis en colère. Enfin, pas en colère, mais bon, j'étais assez déçu parce qu'en vrai, j'en attendais beaucoup de The Plot Hole et j'ai pas eu ce que j'attendais.
Moi, le pitch de The Plot Hole m'avait vachement hypé, et puis je dois avouer que le soufflet est un peu retombé. Sur Tokyo Aliens, j'attendais pas grand-chose. Bon, j'ai eu ce que j'attendais.
Bah ouais, moi c'est ça, enfin, je m'attendais pas à beaucoup plus, je m'attendais pas à quelque chose de mauvais non plus, voilà. J'étais parti pour un shonen dans ce genre-là, un peu, tu vois, un peu extraterrestre, un peu barré, etc. C'est beaucoup plus sage que ce que j'avais imaginé, mais j'ai pas passé un mauvais moment, parce qu'il y a un peu tous les ingrédients
Ouais,
qui
c'est pas
font
mauvais,
que...
c'est pas génial non plus, mais c'est pas
C'est ça,
mauvais.
ouais, c'est... Tu vois, par exemple, c'est un titre qui va bien, ça, si tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un qui a jamais trop lu de manga et tout, qui n'est pas familier avec ça, tu trouves un peu tous les codes classiques hein, et t'es pas obligé de partir sur du Dragon Ball, du machin. Alors moi, j'offrirais du Dragon Ball ou du Dragon Quest, parce que voilà. Mais ça peut être aussi un bon point d'entrée, tu vois, pour un public un peu plus jeune, qui n'a pas trop les
C'est
connaissances.
ça, je pense que c'est surtout à destination d'un même si c'est du Kana, je crois que c'est du
C'est
Dark
ça.
Kana, hein. Même si c'est du Dark Kana, je pense qu'un public pré-ado, ado, voilà, c'est typiquement la base, et c'est de toute façon c'est le lecteur de manga. C'est à cet âge-là, enfin, je dirais que tu commences à lire le manga, peut-être un peu plus tôt, mais c'est pas spécialement pour le lecteur
Ouais,
adulte.
je pense. Il y a... Mais c'est pas déplaisant quand même. C'est ça qui... Voilà.
Ouais, ça se laisse lire, ça se laisse lire. J'irai lire le 2, je verrai bien ce que ça donne.
Bon, moi, j'ai lu le 2. J'ai pas été déçu. Je suis assez curieux. Je donnerai peut-être la chance, sincèrement, sur un ou deux tomes pour voir un petit peu, tu vois, si l'univers s'étoffe et prend une direction différente. Par contre, si on reste toujours dans l'univers très proche Men in Black, je poursuivrai pas. Parce qu'il y a énormément de lectures et que voilà, il y a d'autres choses. Après, j'ai dit ça également pour l'Atelier des Sorciers où je suis le roi des pigeons, je suis à 10 tomes collector. Et chaque fois, je dis, allez, je donne encore une chance à un tome et tout, mais là, c'est fini. Deux tomes. Donc, deux tomes l'Atelier des Sorciers, deux tomes Tokyo Aliens, sinon, j'arrête. Vous l'avez entendu
Bon.
ici, je m'y tiendrai.
Donc on reparle du tome 5 de Tokyo Aliens quand tu l'auras acheté.
Attends, parce que je t'ai pas du tout entendu, ça a coupé.
Mais je disais pas grand-chose d'intéressant.
Ok, je corrigerai. Du coup, je te propose qu'on enchaîne avec le dernier titre, à savoir She-Hulk. Du coup, on va se concentrer principalement sur ce que on a lu. Moi, j'ai lu les six premiers tomes, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, les six premiers singles, donc l'équivalent d'un TPB
Du TPB,
français.
hein.
Que dire? Je vais te laisser la main sur celui-là.
D'accord. Alors, concernant le tome 1 de She-Hulk, donc Miss Hulk pour les anciens, ceux qui sont franchouillards, donc ce tome 1 qui est sous-titré Retour à la vie civile, bon, faut pas se leurrer, il y a eu une série She-Hulk qui est sortie sur Disney+. On se retrouve avec une nouvelle série comics. Donc, on se souvient que Jennifer Walters, She-Hulk, était sauvage juste un peu avant, et dans Avengers, elle a perdu sa sauvagerie, et elle est redevenue la sensationnelle Miss Hulk telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire pétillante, intelligente, qu'elle soit verte ou pas. Donc, elle a besoin de reconstruire sa carrière, et de réexercer en tant qu'avocate, parce que Jennifer Walters est avocate. Et c'est jamais très facile pour elle, parce que autant She-Hulk est un personnage sûr de lui et qui arrive à, je dirais, se sortir de tous les pétrins, autant Jennifer Walters en tant qu'avocate, mais en tant que femme surtout, a toujours eu du mal à trouver sa place. Voilà, et grosso modo, si on regarde ce pitch, c'est un peu le même pitch que la série télé. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as vu la série télé?
Pas du tout, non. Et en fait, tu vois, c'est le problème des séries de télé Marvel et principalement Disney+, en fait, où il y en a tellement. Enfin, il y en a tellement. Tu vois, on t'annonce She-Hulk, on t'annonce Loki, on t'annonce. Je sais pas, il y en a plusieurs. Il y a celle avec
Il y a Moon Knight.
WandaVision, Moon Knight. Et en fait, au final. Entre ça, les Star Wars, les machins, en fait, au final, je trouve que je m'en fiche. Voilà, on m'en donne tellement que mon intérêt, il est plus là. Du coup, j'ai plus envie de les voir et je suis pas allé les voir. Et à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était pas forcément que en bien. Un coup, les effets spéciaux étaient pas terribles, un coup, l'épisode pas ouf parce que la représentation des persos est pas spécialement correcte. Enfin, pas correcte. Après, voilà, c'est juste parce que je lis, donc je me permets pas de juger, mais l'a priori d'être noyé sur toutes ces séries, plus les retours que je vois passer des gens avec qui j'échange, m'incite pas forcément, tu vois, à aller voir ces séries-là.
Bon, comme dans toutes les séries, il y a du bien, il y a du moins bien. Je te parle de la série télé parce qu'en fait, sur cette série-là, sur ce tome-là, donc cette nouvelle série She-Hulk, on a vraiment un parallèle avec ce qui a été proposé sur Disney+ sur la série télé, c'est-à-dire l'auteur, donc l'auteur qui est Rainbow Rowell. Alors Rainbow Rowell, il faut quand même savoir qu'elle est à la fois journaliste et écrivain, c'est une femme, et elle a essayé de mixer ce qui a été fait dans la série télé, mais également, comme pour cette série télé, reprendre un petit peu certains éléments du run de John Byrne sur la sensationnelle Miss Hulk, dont le Panini nous a gratifié
D'un omnibus, en fait
d'une
d'un
intégrale
deluxe là.
d'un omnibus, voilà. Ouais, mais c'est ça, je crois que c'est omnibus de, je sais pas, 700 pages, enfin un truc énorme, qui est une série qui est excellente. Miss Hulk étant, avant Deadpool, le premier personnage à casser le quatrième mur et à parler au lecteur, et où on avait à la fois du fun, de l'action, du second, deuxième, troisième degré, avec vraiment un dessin superbe. Et voilà, cette série, et il y a eu plusieurs séries Miss Hulk qui existent, il y a un run par Peter David également, mais cette série a vraiment posé les bases du personnage. Là où avant on avait un personnage un peu secondaire qui s'énervait ou qui allait passer un coup de main aux Quatre Fantastiques. Voilà, Byrne, avec sa série Sensationnelle She-Hulk, a réussi à poser les bases du personnage et en faire un personnage de premier plan. La série a duré 50 numéros, je crois. C'est beaucoup. Pour une série Marvel, c'est beaucoup. Et là, donc du coup, sur ce tome, ben, on se retrouve un petit peu avec la même chose. On a un peu d'humour, un peu d'action, un peu d'aventure, beaucoup de Jennifer Walters, du moins dans sa vie de tous les jours, du moins She-Hulk dans sa vie de tous les jours. Et il y a très peu de super-héroïsme. C'est vrai que voilà, dans les 6 épisodes du tome 1, She-Hulk n'est pas une super-héroïne, She-Hulk est une avocate, dont la patronne, à qui la patronne du moins interdit de représenter du super-héros. Alors que tous les super-héros viennent la voir pour se faire aider. Donc voilà, c'est vraiment alors sans péjoratisme, sans être péjoratif, pardon, c'est la série pour filles. Je ne sais pas
Ouais,
si tu l'as ressenti comme ça, mais
je l'ai pas tant ressenti comme ça dans le sens
c'est
où
Ally McBeal, c'est Ally McBeal, quoi.
en fait j'ai eu un parallèle avec la série Daredevil de Charles Soule où on était plus axé sur Matt Murdock avocat que Daredevil en fait. Et j'ai un peu retrouvé de ça sur ce premier tome. Et moi je connais pas spécialement le personnage de She-Hulk. À part voilà, les apparitions qu'elle fait dans Les Vengeurs ou quelques team-up à droite à gauche avec Spidey, etc. Pas très familier du personnage, de son univers. Je sais qui elle est, je sais comment elle est devenue comme ça, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et du coup, j'ai trouvé ça assez cool qu'on nous propose en fait cette version un peu tranche de vie en fait de Jennifer plus que de She-Hulk, avec ce que ça induit d'être une super, parce que elle veut pas l'être à son quotidien. Elle fait, en fait, c'est un peu comme Peter qui veut à tout prix être Peter Parker et pas Spider-Man. Elle veut tout faire pour être Jennifer et pas être le. En fait, elle veut pas être traitée comme She-Hulk, mais comme Jennifer. Et j'ai bien aimé ce côté-là. Graphiquement, c'est ultra beau aussi, et ça m'a vachement aidé. Parce que moi j'aime bien toutes les couleurs un peu pop, acidulées et tout, les petits traits. C'est un
Ouais.
petit peu cartoon, tu vois. Et ça m'a fait penser un petit peu au Captain America de Chris Samnee, tu vois, au niveau des couleurs, des traits et tout. Et j'adore ce côté-là, moi.
Bah, c'est-à-dire, ouais, on reste sur du côté une colorisation pop. Au dessin, on a deux dessinateurs qui se sont succédés, c'est Roger Antonio et Luca Maresca. Il n'y a pas trop de différence de style entre les deux. Du coup, ça s'intègre bien dans la continuité. Mais c'est vrai que le dessin est très aéré. Très simple. Là encore, on en revient à ce qu'a proposé Byrne à l'époque avec une série, voilà, beaucoup d'innovations graphiques. Là, c'est beaucoup plus sage graphiquement, mais c'est très agréable à regarder. Pour en revenir au scénario, le fait que ça se focalise sur Jennifer et pas sur She-Hulk, c'est ce qui avait déjà été fait dans la précédente série sur She-Hulk, qui était intitulée uniquement Hulk. D'ailleurs, c'était à l'époque où Hulk était mort et c'était She-Hulk qui reprenait un petit peu le flambeau. Elle était grise, je crois, à l'époque. Enfin voilà, c'est une série qui n'a pas été publiée en France, qui était disponible qu'en VO, et où on suivait Jennifer Walters qui se transformait en Hulk malgré elle. Enfin voilà, on voyait très peu d'apparitions de She-Hulk, mais ça n'a pas très bien marché. Je pense que là, le côté était très, très sombre dans l'écriture, dans le dessin aussi. Enfin voilà, c'était assez pesant. Là, on repart sur quelque chose de léger. Je pense que c'est le genre d'histoire qui convient au personnage. Savoir aussi que bon, She-Hulk est un personnage qui a toujours assumé sa sexualité et ses envies. Là, elle a l'air un peu plus sage. Notamment, bon, il y a le valet de cœur, Jack of Hearts, qui réapparaît dans cette série. Alors, Jack of Hearts, le valet de cœur. C'est un personnage secondaire, voire tertiaire de chez Marvel. Un personnage qui, à la base, était un peu un sidekick d'Iron Man, qui s'est retrouvé transformé en personnage cosmique, hybride, extraterrestre, etc. Bon, voilà. Il a un costume chamarré, on va dire.
Ouais, alors moi, enfin, je l'avais déjà vu passer une fois ou deux vite fait. Je connais pas du tout ce personnage et en vrai, j'ai aucune envie de le connaître. Il y a dans le run là, il y a absolument rien qui m'a motivé à creuser sur ce personnage. Et vraiment, que ce soit sa personnalité, sa manière d'être écrite, ou même son costume ou son charisme, tu vois, là, il a le charisme d'une huître avec un t-shirt en forme de cœur, quoi. Donc moi, franchement, j'avais qu'une hâte, c'était que cet arc soit se conclue, soit arrive vers une porte de sortie qui va nous lancer vers autre chose. J'y ai cru à un moment, parce que on a, je crois, vers le chapitre 3, l'espèce de couple qui est dans le jardin d'enfants avec l'espèce de
Oui, avec le,
surhomme,
ouais, c'est
là.
ça,
Enfin,
le
surhomme ou
et la
surenfant.
petite la Ouais, sur enfin, et la toute petite en fait
Exactement.
qui l'accompagne, mais ouais, qui sont des gens en fait qui ont des super pouvoirs, mais qui veulent qu'on leur foute la paix tout bêtement, qui veulent être ni super vilains ni super
Ouais, ils veulent
héros,
juste
qui
vivre
veulent
leur
juste être des
vie
gens normaux.
normaux, normalement.
Ouais, ça se voit aussi dans la relation de Jen, du coup de She-Hulk avec Titania, son ennemi juré, où elle décide de se faire un fight club et de temps en temps elle se met sur la couenne histoire de se défouler quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de super-héroïsme, encore une fois, dans cette série. C'est plus de la tranche de vie, c'est Ouais, d'accord, j'ai des pouvoirs, mais avant toute chose, je suis un être humain, je suis avocate. Et ouais, quand je m'énerve, ben, j'aime bien aller me filer l'oignon sur le coin du nez avec ma copine
Ben
indestructible.
c'est ça. Et puis, il y a le fait aussi que, malgré, c'est de la tranche de vie, c'est du mini super, mais c'est cool de voir d'autres persos passer juste pour échanger autour d'un sujet qui situe la série dans la continuité actuelle. Typiquement, on voit à un moment, c'est Kurt Wagner qui est là et qui signe un contrat pour
Oui.
Krakoa. Tac, ça nous fait le lien avec House of X et Power of Ten. Enfin, House of Ten et Power of X. Enfin, bref,
Enfin, les
avec
deux
les
sont
séries
valables, quoi.
X-Men du moment. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, tu vois, de pouvoir faire ce lien-là. Et c'est juste des petites choses. Hein. Ça se passe en trois cases, voilà. Il y a Ben Grimm qui passe aussi. On voit un peu tous les héros qui sont là en
Il
attente
y a
d'un
plein de
quatrième.
héros. Mais ce que j'aimais moi dans l'histoire avec, avec Kurt Wagner, avec Diablo, quand il vient pour demander à ce que le cabinet de She-Hulk représente Krakoa, quand elle annonce ça à sa patronne, qui veut pas qu'elle représente des super-héros en fait.
Ouais, mais dès qu'il y
Et
a de la
du
mou
coup, bah,
dès qu'il y a de
elle
la
est.
moula là, voilà.
C'est ça, dès qu'elle a Moulaga, l'autre, elle est. Mais c'est en plus, voilà, c'est ce qu'elle dit, elle représente, elle va représenter une nation. Du coup, la patronne est contente, Jen est contente, et puis c'est con, mais tu lis, t'es content pour elle, quoi.
Ouais, c'est ça. Ou en fait, elle a enfin.
Tu dis, ouais, c'est bon, elle a réussi à trouver le client qu'il fallait, le bon contrat, et ça va dérouler pour elle. Elle va plus être dans son petit bureau minuscule en forme de placard. Enfin,
Et c'est ça, en
c'est
fait, tu vois,
ouais, ça,
elle a
c'est fun.
galéré, elle a trimé tout du long, et quand ça arrive, t'as envie d'ouvrir le champagne avec elle, quoi, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est une série feel good.
Totalement.
Tu la regardes, tu sais qu'il n'y aura pas il y aura pas de la grosse baston, il va y pas y avoir des aventures rocambolesques, enfin, des trucs. Mais ça fait du bien à regarder. C'est un peu comme quand je lis un petit shoujo, tu vois, une petite histoire d'amour. Ben là, c'est un peu la même chose. Ça te fait du bien.
Mais ouais, complètement. Et puis tu te dis, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de machin. Mais quand il y en a, tu le prends en bonus. En mode, ah cool, il se passe ça. Ça fait
Ouais,
plaisir.
cool. Enfin, et tu vois, c'est pas les anciens épisodes de la première série, enfin la seule série Incroyable Hulk là avec Lou Ferrigno où il se transformait deux fois par épisode. Là, t'as pas la baston obligatoire dans chaque épisode. C'est
C'est ça.
ça arrive quoi.
Ouais. Et puis il Non, après toute l'intrigue, en plus l'intrigue qu'il y a avec Jack Offert, enfin avec le valet de cœur,
Le valet de cœur.
elle est là, ça fait fil rouge. Pas non plus, comment dire, elle prend pas toute la place. C'est pas ça
Ouais, puis.
l'intrigue principale, enfin l'intrigue principale, c'est pas ça qui rythme la série, on va dire. Et moi j'ai trouvé ça très cool.
Non, puis c'était. Ouais, puis c'est pareil, tu vois, elle accompagne le mec qui était une entité cosmique presque. Il découvre qu'il aime bien manger, qu'il dort, que c'est sympa de boire un coup, d'aller se promener, de sentir l'herbe, d'aller aux toilettes. Enfin.
Ouais.
Et au final, elle lui passe un vieux sweat avec un gros cœur dessus, et puis il le garde, et lui, pourquoi tu ne changes pas? Il dit, bah, parce que c'est ton sweat et je l'aime bien, quoi.
Et c'est ça, c'est vraiment du feel good. Et
C'est mignon.
je t'avoue que après les deux titres qu'on a lus, moi j'ai adoré lire ça. C'est vraiment, j'ai fini mes lectures sur un bon petit ressenti, tu vois. Et je pense que je l'aurais lu dans l'autre sens,
Ouais.
j'aurais été beaucoup plus sévère sur les deux autres titres.
Ben, moi, je l'ai lu dans l'autre sens, en fait. Et bon, enfin, j'ai lu Plotholes, She-Hulk, et puis. Non,
Alien
j'ai eu
Doctor Alien.
She-Hulk, Plotholes et Toko Alien. Mais ça m'a pas dérangé parce que. Voilà, pour avoir suivi le personnage sur plusieurs séries, avec plusieurs auteurs iconiques, Byrne, Peter David, etc., ça prend un tout autre tournant. Et ouais, ça fait du bien. La série est sympa. Ça, t'as un petit lien quand même avec ce qui se passe dans la série télé. Voilà, non, c'est bien, c'est sympa, ça te détend. Voilà, ça te détend.
Mais c'est clairement ça. C'est la série Feel Good par excellence. Moi, c'est
Ouais.
un gros ira posséder même, tu vois, parce que vraiment, tu vois, c'est un genre de BD que tu peux reprendre n'importe quand. En fait, comme t'es pas tributaire de 40 tomes de continuité avant, ben, tu peux l'attaquer, le lire Et c'était cool. Voilà. Vraiment, moi, c'est un truc que je recommande chaudement parce que ça fait plaisir et ça fait du bien.
Ouais, c'est une bonne découverte finalement, tu vois. Mais pour aller un peu plus loin, Marvel Comics ressort pas mal de nouvelles séries en ce moment, sur des anciens personnages, des nouveaux personnages. Enfin voilà, revoit un petit peu sa gamme de séries. Et il y a quand même des bons trucs qui en ressortent. Et je trouve que voilà, après peut-être un petit passage à vide où il s'était beaucoup focalisé sur les films. On se réintéresse aux séries comics
Mais complètement, ouais.
chez Marvel.
Ça faisait longtemps que j'avais pas lu, parce que, tu vois, je suis Spider-Man assez régulièrement, mais là, en l'espace de 6 mois, je crois, ils ont refait 3 fois un numéro 1 sur Spider-Man, Amazing Spider-Man, machin. Ça m'a perdu, et au final, j'en lis plus. Et là, ben, ça m'a un peu réconcilié, et ouais, j'irai peut-être voir, tu vois, des numéros 1 de séries un petit peu moins bankable, moins gros perso, tu vois. Un peu comme
Mais c'est ça.
le titre La Vision qui était sorti, qui n'était pas un héros principal et qui pourtant était très bien. Là, Miss Hulk, c'est sur le même principe. C'est un peu un héros secondaire. Et c'était vraiment très cool.
Franchement, on a pour le coup bonne pioche.
Carrément. Du coup, ben, voilà pour nos avis pour ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là. On reviendra peut-être une dernière fois avant la fin de l'année.
On va
Mais on va
essayer.
essayer, ça devrait être jouable. Et ensuite, ça sera pour l'année prochaine. Pas de prévision pour le prochain numéro, on n'a rien choisi encore. Je ne sais pas si tu as une petite reco pour nous faire patienter d'ici le prochain épisode. Je ne t'avais pas prévenu non plus.
Alors moi j'ai... Non, mais je commence à te connaître, donc j'avais prévu un petit peu le truc. Non, alors j'ai pas de reco parce que la plupart de mes lectures récentes feront l'objet de chroniques sur le blog, donc vous le découvrirez mes recos à ce moment-là. Non, je viens de recevoir un one-shot dans l'univers de Center Chronicles qui est fait par Jean-Marie Menguez. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je l'ai reçu hier. J'ai feuilleté, ça a l'air très beau, c'est un beau noir et blanc. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup parce qu'il est très talentueux et voilà, donc juste pour le petit coup, ça a l'air sympa, ça a l'air court par contre, mais ça a l'air sympa. Et puis c'est disponible sur son site internet, et en plus vous le commandez, vous pouvez commander une blank cover avec une petite dédicace dessus. Enfin voilà, moi c'est je l'ai reçu hier, ça m'a fait ma journée, je vais essayer de le lire peut-être après l'enregistrement.
Ça marche. Ben moi, ma petite reco, je sais
Et
pas,
toi de ton côté?
peut-être j'en avais parlé la dernière fois, je t'avoue que je m'en souviens pas. En ce moment, je suis en mode pas mal de déplacements, du coup, je joue un petit peu parce que je suis rincé et que je lis pas trop. Et je suis sur Mario et les lapins crétins, le deuxième opus sur Switch. J'avais adoré le premier. Et là, le second, ils ont réussi à faire encore mieux. Dans le sens où on est sur du tactical RPG, mais avec des zones d'action beaucoup plus libres, des animations encore plus folles, un univers beaucoup plus sympa. Plus court, je pense, parce que j'ai joué, je dirais, une dizaine d'heures et je suis pas loin des 25% de jeu fait. Je pense. Enfin, après, c'est 25% de jeu, juste histoire, pas à 100%. Donc je pense que pas très long, hein, je pense en une vingtaine d'heures le jeu est fini. Mais il est vraiment très cool, très prenant, très marrant, parce que ben, c'est les lapins crétins dans le monde de Mario avec les petites subtilités. Et franchement, un bon petit coup de cœur. Ça me fait mes petites soirées.
Bon.
En lecture,
Bah
ben,
écoute, on
pas
va essayer
grand-chose
de
pour
voir.
le moment, à part un tome de Tortue qui va arriver bientôt, et j'en parlerai sur le blog.
Ouais, d'ailleurs, c'est le Zolastronin?
Exactement.
Ou il est déjà sorti?
Non, il
Ouais,
sort le
alors
16.
on te laissera en parler sur le
Il
blog.
sort le 16 novembre, et normalement, cet épisode sortira avant la chronique du titre. Donc, on devrait être dans les clous.
Bon, ben... Allez, je spoil, c'est peut-être le seul tome des Tortues Ninja que tu m'avais conseillé. que j'ai bien apprécié.
Ouais, c'est ben, hors continuité et tout, donc ça a quelques petits avantages.
Voilà, c'est ça.
Du coup, ben, je te remercie Cyril encore une fois d'avoir participé à ce petit épisode.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.
On se retrouve très vite, ben, comme je disais, d'ici 2-3 petites semaines. Et ben, pour tous les autres, le blog, le Twitter, le Facebook, les Instagram, les réseaux, tout ça, tout ça. Et on se dit à très bientôt. Allez, salut, salut!